en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une histoire d'héritage et de mémoire. Un héritage historique, celui de la guerre civile espagnole. Un héritage familial aussi, celui d'un grand-oncle franquiste mort dans les rangs phalangistes sur les rives de l'Èbre en 1938 et devenu par sa mort un héros dont le destin hante la mémoire parfois défaillante des survivants. Mais qu'est-ce qu'un héros quand celui-ci meurt foudroyé en pleine jeunesse au nom d'une mauvaise cause? Et comment le regarder avec nos yeux d'aujourd'hui? 15 ans après les soldats de Salamine, Javier Cercas nous livre une enquête passionnante pour le lecteur et dérangeante pour lui-même. Une histoire de famille, la sienne, l'histoire d'un pays à travers un village, son village natal, et le destin d'un homme qui est aussi une implacable démonstration contre l'absurdité de la guerre. Le Monarque des Ombres de Javier Cercas est paru aux éditions Actes Sud dans une traduction d'Alexander Grujicic et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Javier Cercas.
Bonjour.
Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir réussi à écrire un livre impossible ?
Excellente question, parce que au moins c'était difficile pour moi, ça a été difficile pour moi. C'était le premier livre que je voulais écrire, parce que l'histoire de ce jeune homme qui était l'oncle de ma mère, presque son frère, parce qu'ils habitaient ensemble.
Vous étiez très très proche. Hein,
très très proche.
Elle l'admirait beaucoup.
Pour elle, était le héros, disons. Oui, c'était l'homme jeune, courageux, qui allait à l'arrière pour défendre la patrie, la famille, la religion, toutes ces valeurs, et qui est mort en combat. Alors oui, elle m'a parlé tout le temps. Ma mère, peut-être, c'est la protagoniste secrète du livre, peut-être, parce qu'elle m'a parlé tout le temps de cette histoire. C'est-à-dire, la première question sérieuse que je me posais à ma vie, ça a été sur cet enfant, parce qu'il était 17 ans, il faut dire que c'était un enfant. Ce sont les enfants qui font la guerre. Et toute ma vie m'a hanté vraiment cette histoire. Et je ne savais pas si je serais capable de l'écrire.
Qu'est-ce qui finalement, vous rendait cette tâche si difficile? C'est une forme de honte?
Beaucoup de choses. Pour commencer, le fait que c'était une histoire vraiment personnelle. C'est-à-dire familiale, une histoire très intime. C'était mon héritage, comme vous avez dit très bien au commencement. Il est encore le symbole du pire héritage de ma famille. Vous savez, nous avons tous un bon héritage et un mauvais héritage. Mais nous ne savons pas très bien quoi faire avec notre pire héritage. Et alors, comment faire que cette histoire très, très personnel, un homme qui était complètement anonyme, comme il y avait milliers de ses enfants qui vont à la guerre et qui meurent à la guerre. Comment faire pour que cette histoire devienne universelle? Ça, c'est le premier problème. Parce que la littérature, c'est ça qui transforme le particulier en universel. Une histoire anonyme, une histoire très petite, en quelque chose qui est universel, qui vaut pour tout le monde. Ça, c'est le premier problème. Et après, bon, j'ai découvert finalement qu'il n'était pas si... En fait, Manuel Mena, la protagoniste de ces livres, c'est un symbole pour moi de tous ces enfants, parce que ce sont des enfants, qui vont à la guerre, et ils pensent qu'ils feront des grandes choses, qu'ils sauveront le monde, la patrie, la religion, tout ça, et qui finalement sont trompés complètement, et qui meurent à la guerre. Alors, il est un symbole de ces enfants qui vont... finalement à l'abattoir. Hein.
Et donc un personnage universel. Un héros familial,
exactement.
Mais un personnage tragique, exactement. Universel.
Exactement.
Puisque
exactement.
La guerre, malheureusement, est universelle, mais
oui.
C'est vraiment votre héros familial,
exactement.
Qu'il a fallu raconter à vos lecteurs du monde entier.
C'était alors, l'autre problème.
Voilà.
Notre problème, c'était comment faire, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage? J'ai parlé du pire héritage, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage? Avec ces pires héritages, nous savons très bien qu'est-ce que nous devons faire avec notre bon héritage. Ça, c'est facile.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec les pires héritages? L'héritage des violences, l'héritage des guerres que nous tous avons. Vous, les Français, nous, les Espagnols, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'édulcor, le cash. Le masque, on s'invente une autre héritage, une autre histoire qu'on faisait le protagoniste de mon dernier roman qui s'appelait L'Imposteur. C'est un homme qui a inventé une histoire, sa propre histoire, non? Il a inventé un passé de héros, de héroïque, mélodramatique, romantique et tout ça. Où on le regarde en face. Ça, c'est la question.
Alors, ça n'a pas été facile de le regarder en face, justement. Vous avez eu besoin d'un maïeuticien, d'un accoucheur, d'un homme qui savait vous pousser dans vos retranchements, qui posait les bonnes questions, qui appuyait là où ça fait mal. Et cet homme-là, c'est un écrivain, lui aussi, journaliste, scénariste, réalisateur de cinéma. C'est David Trouébar. C'est un personnage haut en couleur, plutôt extraverti. Il s'est vraiment appuyé là où ça fait mal. Il vous raconte en particulier, à un moment clé du livre, une nouvelle d'un écrivain serbe qui s'appelle Danilo Kiš, qui est une sorte de parabole qui fait réfléchir énormément le lecteur. On n'a pas le temps de la raconter ici, malheureusement, mais il faut vraiment le lire, dans le livre. Il faut pas. Mais c'est vraiment un moment clé parce que ça fait réfléchir à la fois le lecteur et ça vous fait réfléchir vous, Javier Cercas. Alors il a filmé vos entretiens parce qu'il vous a accompagné dans cette enquête pour remonter sur les traces de ce grand-oncle, souvent avec des personnages qui eux aussi ont eu du mal comme ça à parler du passé. Vous êtes plongé dans les archives et avec tous ces éléments là, vous avez donc réussi finalement à écrire ce livre, et pour pouvoir écrire ce livre, vous avez trouvé une solution presque magique, j'allais dire. Vous vous êtes dédoublé.
Exactement.
Javier Cercas. Il ne pouvait pas y avoir un seul narrateur, il fallait en avoir deux.
Oui, pour moi, ça a été la solution. Comment faire pour raconter cette histoire? La solution était de me dédoubler ou de créer deux narrateurs. Je crois que le lecteur a l'intuition immédiate que c'est comme ça quand il commence à lire. Mmh. Ces deux narrateurs s'alternent. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un narrateur que c'est comme un historien, disons. C'est-à-dire un narrateur détaché.
Assez froid, qui parle des faits.
Exactement.
De façon complètement désincarnée.
Exactement.
De façon presque chirurgicale, d'une certaine façon.
Exactement, comme un historien, non? Voilà. Et qu'il dit, je n'invente pas, je ne peux pas inventer.
Et il s'en défend, et il dit même, je suis pas un littérateur.
Exactement, je suis pas un littérateur.
C'est un mot plein de morgue et plein de mépris, ça, le mot littérateur.
Oui, parce que.
Vous êtes un littérateur, Javier Cercas?
Oui, je crois qu'il penserait que je suis un littérateur. Un peu littérateur, parce que j'imagine, parce que, non? Mais oui, c'est comme ça, et c'est il parle en tierce personne de moi, en fait. Il me corrige et tout ça. Alors j'avais besoin de ce narrateur comme ça, cet historien, pour raconter une histoire lointaine, bon, apparemment lointaine, c'est-à-dire des années 30 et tout ça, c'est-à-dire la guerre, l'histoire de ces héros de ma famille, de mon petit village. Tolstoï disait une chose que j'aime beaucoup, il disait raconte ta petit village et tu raconteras le monde.
Voilà.
Et c'est un peu l'idée. Bon, oui. J'avais besoin de ces narrateurs.
Et puis le deuxième?
Mais dans le deuxième qui s'appelle Javier Cercas, c'est un peu un masque de moi-même, c'est très, ressemble à moi-même vraiment, et qui raconte le processus, c'est-à-dire, comment j'ai fait le roman, comment j'ai arrivé à faire le roman. Ça, c'est très, très fréquent, très habituel dans mes romans. C'est-à-dire, je dis souvent que j'écris des romans d'aventure sur l'aventure d'écrire un roman. C'est-à-dire, je raconte une histoire, une série d'histoires, mais en même temps, je raconte comment j'ai arrivé à raconter ça. Et cette processus devient peut-être plus important encore.
Sauf que là, ça va un peu plus loin, Javier Cercas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'affrontement, je n'ose pas dire de guerre, mais il y a aussi une forme de guerre entre les deux narrateurs.
Oui.
C'est-à-dire que c'est quoi la bonne façon de raconter cette histoire? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la littérature tout en conservant la dimension historique de votre sujet?
Je crois que le livre, c'est un résultat des... Vous avez dit la guerre, c'est intéressant. Je dirais les dialogues.
Oui, parce que c'est un dialogue. Mais c'est pas un dialogue pacifique, pas pacifié.
Bon, le dialogue, c'est toujours fort.
Il est pacifié à la fin du livre,
oui,
évidemment,
exactement.
Mais uniquement à la fin.
Exactement. À la fin, on voit que ces deux narrateurs sont le même narrateur dédoublé. Mais oui, c'est le dialogue entre les présents et les passés, c'est le dialogue entre l'histoire et la littérature. Bon, et ça, et le résultat de tout ça, c'est le livre. J'ai dit le passé, je ne crois pas que c'est le passé. C'est-à-dire, je ne parle pas, mes romans ne sont pas des romans historiques. C'est-à-dire, je crois que le passé duquel il y a encore aujourd'hui témoin et duquel il y a encore aujourd'hui mémoire, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé, sans laquelle on ne peut pas comprendre le présent. Alors, le présent espagnol commence en 1936. Comme le présent français commence 1939. Et ça n'est pas une chose différente de notre présent. Ça fait part de notre présent. Je crois que mes livres sont une sorte, pas consciemment, mais une sorte de, au moins au commencement n'était pas conscient, une sorte de bataille contre contre une guerre contre ce que j'appelle la dictature du présent.
Voilà.
Cette idée que nous vivons, que le présent c'est seulement aujourd'hui. Et que hier, c'est le passé, et que la semaine passée, c'est la préhistoire, presque.
Alors, vous venez de le dire, hein, c'est vraiment une bataille, une guerre, effectivement, que votre œuvre littéraire, Javier Cercas. Et c'est vrai que ce livre est donc une guerre, puisque ce roman est une guerre, mais une guerre contre la guerre. Et ça, on le découvre le début du livre, hein, à travers une photo qui n'est pas la photo qui se trouve sur la jaquette du livre, mais qui se trouve à l'intérieur, un portrait de votre héros familial, Manuel Mena, portrait en militaire avec un visage d'enfant et qui vous trouble énormément par le regard. Nous sommes page 27 de votre livre.
Sa maigreur saute immédiatement aux yeux. De fait, son corps semble incapable de remplir l'uniforme. C'est un corps d'enfant dans un costume d'homme. Saute également aux yeux la position de son bras droit, l'avant-bras croisé sur le ventre et la main tenant l'intérieur du coude gauche, une posture qui ne paraît pas naturelle, mais suggérée par le photographe. Tout comme la coquette inclinaison de la casquette, masquant le sourcil droit de Manuel Mena, paraît suggérée par le photographe. Mais ce qui attire surtout l'attention, c'est son visage. Il n'y a pas de doute. C'est un visage d'enfant, d'adolescent tout au plus, avec sa peau de nouveau-né. Sans une seule ride, ni le moindre soupçon de barbe, ses sourcils délicats et ses lèvres vierges et entrouvertes laissant voir des dents aussi blanches que la veste. Son nez est droit et fin, le cou pareillement fin et les pavillons des oreilles bien séparés du crâne. Quant aux yeux, le noir et blanc de la photo leur a volé la couleur. Ma mère se souvient qu'ils étaient verts. Ils semblent clairs. Ils ne sont pas tournés vers l'objectif, en tout cas, mais vers la droite et ne paraissent regarder personne en particulier. Cela fait un bon moment que je les observe, mais je n'ai réussi à y déceler ni orgueil, ni vanité, ni inconscience, ni crainte, ni joie, ni ambition, ni espoir, ni découragement, ni horreur, ni cruauté, ni compassion, ni jubilation, ni tristesse. Pas même l'imminence de la mort qui le guette. Cela fait un bon moment que je les observe, et je suis incapable de voir en eux quoi que ce soit. Je me dis parfois que ses yeux sont un miroir et que le néant que j'y vois n'est autre que moi-même. Je me dis parfois que ce néant, c'est la guerre.
Ce néant, c'est la guerre, écrivez-vous, Javier Cercas, dans Le Monarque des Ombres. C'est vraiment un livre, j'allais dire, un réquisitoire humain contre la guerre, contre la stupidité de la guerre, capable comme ça de faucher au nom de n'importe quelle cause une jeunesse qui ne demande qu'à vivre et qui n'est pas forcément si idéologisée que ça. Il y a une phrase, on parlait de photos hein, à l'instant dans cet extrait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images aussi dans ce livre. Il y a de la peinture par exemple, et vous dites que quand Manuel Mena part à la guerre, l'idée qu'il s'en fait ressemble moins à l'image de la guerre de Goya qu'à celle de Velázquez.
Oui, ce que j'ai dit, c'est que nous vivons dans une époque paradoxale. On a sacralisé la mémoire, mais on oublie plus rapidement que jamais. Et on oublie des choses essentielles. Une chose essentielle, c'est que ce sont les enfants qui font la guerre. C'est toujours comme ça. Manuel Mena était un enfant, 17 ans, quand il est allé à la guerre, 19 ans. Et ce sont les adultes qui envoie les enfants à la guerre. Comment? L'exemple de Manuel Mena, c'est parfait. Il allait à la guerre, il pensait qu'il allait à la guerre à faire des choses extraordinaires. Il y a eu une idéalisation de la guerre pendant toute l'histoire.
La mythologie du héros.
Mais oui, non, mais de la guerre. C'est-à-dire, on a pensé toujours que la guerre, c'était extraordinaire, c'est magnifique. Il y a eu une idéalisation, la littérature, la peinture et tout ça. L'épigraphe du livre, c'est dans vers de Horace, le grand poète latin, qui disait « Dulce decorum est pro patria mori », c'est doux et honorable mourir pour la patrie. Et j'évoque cette peinture, pour moi, une des meilleures peintures qu'on a fait de Velázquez, que c'est très connu en Espagne, je ne sais pas ici, mais ça s'appelle la rendition de Breda, où la guerre, c'est absolument magnifique. Les vainqueurs sont compassibles, les vaincus sont dignes, les chevaux sont magnifiques, sont nobles. Alors, Manuel Mena, comme tous les jeunes enfants qui vont à la guerre, volontairement, évidemment, ils croient qu'ils vont à la guerre de Velázquez. Une chose noble, héroïque, magnifique, où ils se trouveront eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils se trouvent? Ces jeunes gens trouvent la vérité de la guerre, c'est-à-dire Goya. Le désastre de la guerre, c'est-à-dire la guerre comme destruction totale, comme abjection totale, comme immoralité totale. Ça, c'est un des instruments avec lesquels nous, les adultes, envoyons à la guerre les enfants. Mais il y a une autre, et Manuel Mena, c'est aussi un exemple parfait. Ce sont des idéologies qui promettent le ciel et qui finalement créent l'enfer. Et le phalangisme, disons le phalangisme a été la version hispanique de fascisme, a été une de ces idéologies, le communisme a été une de ces idéologies. Bon, aujourd'hui, le salafisme, l'islamisme est une de ces idéologies. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, c'est un livre belliqueusement anti-belliciste. Au moment où je ne sais pas qu'est-ce que pense notre historienne aujourd'hui, mais au moment où aujourd'hui on est en train de répéter beaucoup des erreurs qu'on a commises aux années 30, c'est-à-dire on voit ce qu'on appelle aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'histoire repasse les mêmes plats.
Les historiens disent toujours que l'histoire ne se répète pas, mais les bons historiens savent très bien que l'histoire se répète toujours, mais avec des masques divers.
Bonjour.
Avec des masques divers.
Bonjour Mercedes Justas.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes historienne, justement, professeure à l'Université Paris 8. Vous avez participé au livre collectif paru chez Armand Collin intitulé Histoire de l'Espagne contemporaine, dirigé par Jordi Canal, dont c'est la troisième édition. Vous vous êtes intéressé en particulier pour ce livre au franquisme et au post-franquisme. Alors, je suis obligé de vous poser la question, puisque Javier Cercas vous a tendu la perche et la main. Est-ce que l'histoire, effectivement, repasse avec d'autres masques? Mais qu'il faut justement se prendre pour soi les leçons que l'histoire peut nous donner pour éviter qu'elles ne se répètent.
En fait, j'ai aimé la métaphore des plats. En effet, l'histoire peut parfois servir les mêmes plats, mais toujours cuisiner avec des ingrédients différents.
C'est ça.
Effectivement, en ce moment, on est face à des situations qui ressemblent à certaines qu'on a pu vivre pendant les années 30. Et je pense notamment à la question de l'immigration ou de l'étranger de façon plus large, qui a été un des leviers en fait des conflits politiques des années 30. Mais évidemment, après, les situations concrètes ne sont jamais tout à fait les mêmes. Et en même temps, je suis une de ces historiennes ou des historiens qui pensent qu'on peut et qu'on doit tirer des leçons de l'histoire. Et sinon, ça serait une science morte.
Absolument.
Pour moi, c'est une science très vive.
On va essayer d'être simple, didactique, pour bien comprendre ce qui se joue dans ces années 30-là en Espagne et pourquoi justement ce qui s'est passé n'a toujours pas été digéré en Espagne et peut nous éclairer sur la situation d'aujourd'hui. La guerre d'Espagne, elle va durer un peu moins de 3 ans, hein, entre 1936 et 1939. En 1936, donc, quand éclate ce conflit, à quoi ressemble l'Espagne, Mercedes Justas?
L'Espagne, c'est un pays déjà très rural, en fait. C'est un pays où la population vit de façon assez massive à la campagne. C'est un pays qui, contrairement à une image qu'on peut avoir comme ça, s'est beaucoup modernisé pendant le premier tiers du XXe siècle, et notamment à partir des années 20, et qui commence à ressembler au pays de son entourage et au pays européen qui a cette aspiration en fait de ressembler à l'Europe et qui s'est modernisé aussi politiquement. Et pendant les années 20, il y a une dictature militaire en Espagne, celle du général Primo de Rivera, mais de façon paradoxale et même avec l'existence de cette dictature, et il y a quand même une modernisation de la société, notamment au niveau des mœurs, au niveau d'une classe intellectuelle qui commence à se former et à être très active, et au niveau des demandes de démocratisation de la société.
Alors, modernisation, sauf peut-être à Ibai Hernando, quand même, Javier Cercas, parce que ce village, dans la province d'Estrémadure, on est donc dans l'ouest de l'Espagne, en 1919, donc au tournant des années 20, pour vous, et c'est vrai que c'est très étonnant, et a fortiori, après avoir entendu Mercedes Justas, ce village-là, pour vous, en 1919, il en est encore au Moyen-Âge.
Bon, c'est une façon de
parler.
C'est
un petit peu exagéré, peut-être, mais c'est-à-dire qu'il y a le mot, alors peut-être que c'est la traduction, mais il y a quand même le mot serf, c'est-à-dire le mot esclavage, ouais. On a l'impression d'être dans une forme de servage, donc de féodalisme, encore une fois, avec des paysans extrêmement pauvres.
C'est comme ça, c'est-à-dire, Iba Hernando, ce petit village n'était pas Madrid, n'était pas Barcelone.
Alors, il était très à l'écart.
Ah oui, absolument. C'est une chose que c'est très surprenant pour moi quand j'écris finalement le livre, que je voulais écrire toujours, c'est le fait que c'est vrai que il y a un personnage qui dit dans le livre, ce n'est pas ce petit village n'est pas à Barcelone, n'est pas à Madrid. Mais en même temps, l'histoire de la République, disons, et la guerre dans ce village, c'est très semblable à ce qui se passait en Espagne. C'est-à-dire, on peut dire que c'est dans le microcosme
C'est-à-dire que quand la République arrive en 1931,
c'est la modernisation.
Oui, comme et c'est un espoir extraordinaire pour les couches populaires, oui. Espoir qui est très vite déçu. Finalement, c'est ce que vous expliquez.
Bon, très vite, oui, on est déçu, oui, mais dans ce sens aussi, ce petit village, c'est la même chose que le reste de l'Espagne, c'est-à-dire la République a été une grande illusion, a commencé comme une grande illusion, et peu à peu, on a commis des erreurs, et surtout, la République avait beaucoup d'ennemis, ça c'est vrai, ça c'est évident.
Notamment l'Église,
notamment les grands pouvoirs économiques, et l'armée aussi, mais l'Église a été absolument essentielle, et Massé, ça a été partout, hein, ça a été à ces petits villages, mais aussi à Madrid, aussi à Barcelone, on a cette image de... Pardon, oui.
Alors, je crois que vous avez lu le livre, Mercedes Sousta, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le terminer, mais c'est vrai que dans le livre, alors qu'il y a effectivement l'avènement de cette Deuxième République en 1931 qui correspond à l'arrivée dans le village du médecin, Don Eladio, qui va apporter justement cette ouverture intellectuelle, cette modernité, qui va apporter une vraie école, un vrai soutien de la population. Donc il y a cet espoir effectivement qui se lève et qui débouche sur une grande déception, et les mots que Javier Cercas utilise dans le livre sont quand même très forts, puisqu'il parle des péchés des républicains, ce qui, là encore, avec la terminologie religieuse, est pas innocente, j'imagine, et il parle de candeur, de maladresse et de dogmatisme. Est-ce que la République espagnole, pour quelle raison la République espagnole a-t-elle autant déçu les couches populaires qui portaient autant d'espoir en elle, Mercedes Justas?
Waouh, c'est une question compliquée. Je vais essayer de répondre en une minute.
Candeur, maladresse, dogmatisme. Vous êtes d'accord avec ce triptyque?
Je crois qu'il faudrait peut-être le nuancer un peu, mais c'est vrai que c'est une période très controversée. Et effectivement, enfin, je suis d'accord avec Javier Cercas dans le sens où les républicains n'ont pas su prendre la température du pays, en quelque sorte. C'était effectivement des personnes, enfin, je parle des républicains purs, parce que après, dans le gouvernement républicain, il y a eu aussi des socialistes, ensuite il y a eu aussi un gouvernement de droite, donc en 5 ans il se sont passés énormément de choses.
Énormément.
Et donc et c'est vrai que les personnes qui ont contribué à créer et donner forme institutionnelle à cette république et se sont donné des objectifs beaucoup trop ambitieux certainement, mais ça on peut le savoir nous avec notre perspective du présent. Et probablement si on avait été là en 1931, on aurait voulu aussi moderniser le pays, apporter la laïcité, la séparation entre l'Église et l'État, la réforme agraire qui était une des priorités les plus importantes, la réforme de l'éducation. Enfin, il y avait tellement de chantiers à mener de front à ce moment-là. Peut-être que le problème a été de les ouvrir tous à la fois et de effectivement provoquer d'une part trop d'espoir et trop d'illusions et d'autre part heurter des pouvoirs qui se sont avérés beaucoup plus difficiles à déboulonner qu'est-ce que les politiciens pensaient.
C'est essentiel, c'est-à-dire ils avaient des ennemis avec un énorme pouvoir,
oui.
Et décidés à finir avec la République.
Mais est-ce que justement c'est aussi cette déception populaire-là qui a été le terreau du succès du falangisme et du franquisme d'une façon plus globale, Mercedes Justas?
Je ne le pense pas, en fait. Parce que justement, après, bon, il faut mener des études un peu plus fines sur les appuis, justement, du coup d'État au premier. Parce que les choses ont beaucoup évolué pendant la guerre elle-même. Mais le phalangisme, c'était un mouvement absolument minoritaire, absolument. Tout comme le communisme d'ailleurs. C'est-à-dire les deux idéologies extrêmes, disons, qui pouvaient avoir pendant les années 30 en Espagne, c'était vraiment le fait d'une minorité. Après, il y a eu effectivement une polarisation à partir notamment des 1933-34, justement quand la droite est accédée au pouvoir et que à ce moment-là les couches populaires organisées, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, a eu peur d'une dérive de l'Espagne vers le fascisme, parce que c'était ce qui se passait dans les pays alentours. Donc les ouvriers qui lisaient la presse et qui étaient quand même très très bien informés de ce qui se passait dans les autres pays, ils voyaient l'Autriche, ils voyaient l'Allemagne, ils voyaient l'arrivée de Hitler, ils voyaient le leader de la droite espagnole, de la CEDA, José María Gil Robles, se rendre à Nuremberg. Donc tout ça, c'était pas mal inquiétant.
Mais est-ce que justement, il a parlé de fascisme tout à l'heure, Javier Sacas, est-ce qu'on peut réellement rapprocher l'idéologie phalangiste du fascisme mussolinien?
Tout à fait. D'ailleurs, c'était la grande inspiration. Il ne s'en cachait pas parce que en 1933, quand la Falange est créée, le Mussolini a pas mauvaise presse. Enfin, il a mauvaise presse pour la gauche, évidemment, oui. mais pas forcément et partout en Europe.
C'est-à-dire qu'il répond aux aspirations patriotiques, aux aspirations de réaction. Oui. Aussi, on parlait de l'Église catholique espagnole tout à l'heure, qu'il y avait justement suite à l'avènement de la République.
Tout à fait, mais bon, en même temps, le phalangisme n'est pas non plus l'expression du catholicisme politique qui a ses propres organisations dans l'Espagne des années 30. C'est vrai qu'ils ont des intérêts qui confluent. Et justement, au moment où il y a tout un pan de la société qui décide que ça ne peut pas aller plus loin, et que la démocratie est allée vraiment beaucoup trop vite, en fait, que les masses populaires peuvent s'emparer du pouvoir, et ça effraie certaines couches de population qui se trouvent des intérêts communs à ce moment-là, alors que c'est des couches très hétérogènes, finalement.
Qu'est-ce qui a séduit Manuel Mena dans l'idéologie phalangiste, Javier Sacas?
Beaucoup de choses. Je l'exprime, je le raconte dans les livres, mais il faut se souvenir d'une chose que souvent, aujourd'hui, bon, pas les historiens, mais populairement, on oublie. C'est le fait que le fascisme avait un côté extrêmement séduisant. Extrêmement séduisant. C'est-à-dire, les fascistes, pas seulement en Espagne, partout, n'étaient pas. On imagine aujourd'hui un fasciste, un monstre, quelque chose comme ça. Non, 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 c'est énormément séduisant. Avec un côté, si on, par exemple, lit le discours de José Antonio Primo de Rivera, qui était un peu notre Mussolini, disons, non, le leader de fascisme espagnol, un discours que Manuel Mena, sans doute, je crois, avait écouté, parce qu'il avait été très, très proche de le théâtre où il a fait ce discours. On trouve des choses extraordinaires, c'est-à-dire, par exemple, le fascisme s'est présenté comme anticapitaliste, comme antisystème, comme un mouvement jeune contre, vous savez, cette chose vieille qui s'appelait la démocratie libérale et tout ça, avec, vous savez, les leaders charismatiques qui étaient incarnation du peuple. Alors, beaucoup de choses, c'était très jeune, c'est très éblouissant, surtout pour les jeunes gens. Et c'est un peu comme aujourd'hui. Too much on my chest. I don't want a yoga jet. All I want is your respect. Impasse that inspect. I got too much on my plate. I don't want a yoga jet. All I want is your respect. Try me, try to buy me. Your technology, illogic. I want a new start. Do something smart with my art. My only motivation is to write with the right emotion. I don't care about nothing else but music going on. Lock it, lock him down, lock him down, down, down. Lock it, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down, down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Sometimes
I wish I could be who I wanna be and not who they want me to be. Just make it all easy, hey, yo. I got to get away, yo. But I don't give a fuck about what you think of me, yo. Charm me, confuse me, elude me with your fake ways. We both know who you really are. Imposter, you're not a star. My only motivation is to write with right emotion. I don't care about nothing else but music going on, yo. Lock me, lock him down, lock him down, down, down. Lock me, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him, lock him down, lock him down, down, down. Lock him, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him, lock him down, lock him down, down, down. Lock him, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him, lock him down, lock him down.
Inspecta, extrait du nouvel album de Jane dans VMDN sur RFI. Et vous avez peut-être reconnu Ralir Serkas, une célèbre mélodie d'un dessin animé des années 80, l'Inspecteur Gadget, dessin animé absolument culte. L'Inspecteur Gadget qui, très bizarrement, s'invite à deux ou trois reprises hein, dans le roman. Il y a une autre référence aussi à la culture populaire, c'est la télé-réalité avec Secret Story, cette émission que l'on connaît en France, Big Brother, hein, est le titre générique dans l'ensemble du monde. En fait, vous êtes non seulement un écrivain contemporain, mais un écrivain extrêmement pétri de culture populaire, Javier Serkas.
Je ne fais pas une différence entre la culture populaire et la culture, disons, la haute culture. Je ne vois pas la différence.
Mais on a du mal à vous imaginer regarder le Secret Story espagnol avec votre maman devant la télé.
Bon,
c'est un vrai plaisir.
Ma maman, vous ne connaissez pas ma maman.
Non, bah justement, mais je vous pose la question.
Mais justement, ma maman dit, c'est le Big Brother, c'est un peu, c'est exactement comme un film d'Antonioni.
Ah,
on ne
voilà,
dit rien, on ne parle pas rien. Alors, c'est ça la haute culture et la culture populaire.
Bon,
non, c'est la même chose.
On est quand même très très loin de la vie de Manuel Mena.
Non, pas du tout. Pas exactement. Non, pas exactement. Parce que, c'est un moment où on est en train de voir cette Big Brother. Et après, on voit l'Aventura di Antonioni, que c'est un film où il y a une personne qui disparaît. Et au commencement du film. Et tout le film va. Et tout le monde oublie cette personne. Elle me dit, c'est comme la vie, ça. Hein? Je me souviens de l'héros de ma jeunesse, qui était de l'héros de ma vie, qui était ce jeune homme, et on a oublié tout. Alors, non, c'est pas loin. Tout est très proche.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'écrivain Javier Serkas qui publie Le Monarque des Ombres chez Actes Sud et l'historienne Mercedes Justas qui, je le rappelle, a participé au manuel dirigé par Jordi Canal intitulé Histoire de l'Espagne contemporaine dont la troisième édition est parue chez Armand Collin. Alors Javier Serkas, dans votre livre au chapitre 3, il y a une longue tirade de David Trueba qui vous dit en substance, oh là là, tu vas encore écrire un roman sur la guerre civile, on va t'accuser d'idéaliser les républicains, ou de farder le franquisme, c'est l'expression que vous employez, parce que tu ne les présentes pas toujours comme des monstres. Alors ça fait un peu plus d'un an que le livre est sorti en Espagne. Hein. Est-ce que c'est effectivement comme cela, avec cette polémique-là qu'il a été reçu, ou est-ce que David Trueba s'est trompé?
Non, David Trueba ne se trompe jamais.
Jamais.
Non, oui. On m'a accusé de communiste, on m'a accusé de fasciste. Oui, c'est logique. Quand on parle d'un sujet comme ça, ben, c'est logique, c'est normal. Non. Oui. Et si tu ne dis pas, par exemple, que tous les fascistes étaient des monstres, violents et des monstres, tout ça, et tu dis qu'il y avait des fascistes qui étaient personnes normales, comme cet enfant, qui était un jeune homme de Provence, d'un tout petit village, qui simplement s'est trompé du point de vue politique, qu'il n'y a pas aucun doute que le franquisme a été une erreur totale, que le coup d'État était une erreur totale, mais qu'il y avait des personnes normales qui étaient comme ça.
Oui.
Ça, c'est le grand problème qu'on a oublié complètement, que les bonnes personnes peuvent faire des choses mauvaises.
Et
c'est assez difficile à accepter.
Oui. C'est le cas aussi du Serkas qui est devenu le maire de votre village natal. C'est ce que...
Ah non, c'était mon grand-père, tu veux dire.
Votre grand-père, oui. Qui s'appelait Serkas aussi.
Oui, exactement, oui, par exemple, oui, il y avait des gens comme ça. C'est-à-dire, dans le livre, il y a une chose que je... Il y a une distinction, je ne sais pas si Mercedes est d'accord avec ça, mais je crois que c'est pas pour la guerre civile, mais c'est partout un peu. C'est-à-dire, il y a la raison politique, il y a la raison morale. C'est-à-dire, je n'ai pas aucun doute, malheureusement en Espagne il y a doute sur ça, mais je n'ai pas aucun doute qui avait la raison politique en 1936. C'est-à-dire, il y a un coup d'État contre une république démocratique, pauvrement démocratique, mais démocratique à la fin, et bon, organisée par l'Église, bon, l'armée, l'oligarchie, bon, tout ça. Alors, qui avait raison? Pour la raison politique, c'était la République, sans doute pour moi. Et qui s'est trompé, ce sont les franquistes. Alors, ma famille, alors le héros de ma famille et tout ça, c'est clair. Mais ça veut dire que tous les républicains étaient des bonnes personnes? Non?
Non.
C'est-à-dire les personnes concrètes qui ont tué plus de 7000, à 100 fois, plus de 7000 religieux en Espagne, ils étaient du bon côté, ils étaient du côté correct, ils défendaient la République. Il y avait des gens qui ne croyaient pas à la démocratie, évidemment, mais ils étaient, disons, ils avaient la raison politique, mais ils n'avaient pas la raison morale. Et au contraire, il y avait des gens qui étaient du mauvais côté politique, sont trompés politiquement, qui n'avaient pas la raison politique, qui ont été avec le coup d'État de Franco, mais qui ont fait ça en croyant que c'était la seule solution pour aller avant. C'est-à-dire, j'étais toute ma vie en train de savoir des choses sur ces, faire une investigation sur le protagoniste de ces livres, ce jeune homme. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il était pire personne que moi, que je suis meilleur que lui. Il s'est trompé complètement du point de vue politique, mais je ne peux pas dire qu'il s'est trompé du point de vue moral. Je ne peux pas, parce que il a fait, par exemple, une chose que je ne sais pas si j'aurais fait, que c'est risquer ma vie et la perdre pour les choses à laquelle je crois.
Mercedes Justas, vous qui avez lu effectivement ce roman, est-ce que le personnage de Manuel Mena vous semble, alors je n'ose pas dire archétypique, mais on va dire représentatif d'une certaine jeunesse espagnole dans les campagnes, comme dans la région de l'Estrémadure, dont il est question, dans les années 30. Est-ce que à partir de ce destin individuel, on peut tirer des leçons collectives du point de vue historiographique?
C'est une question très compliquée parce que justement, en tant qu'historienne, c'est vrai que on essaye de dépasser un petit peu les biographies individuelles pour essayer de comprendre des sens collectifs, sociaux, politiques aux événements. Et donc ça, c'est vrai que c'est une question difficile pour moi. Et, archétypique, je sais pas. Enfin, tout être humain est exceptionnel. D'où la difficulté aussi d'essayer de tirer des leçons trop générales d'une biographie. Et en tout cas, je trouve que le livre décrit très bien les processus de politisation très très accélérés qui ont eu lieu dans les villages espagnols pendant les années 30.
Mais de politisation, c'est-à-dire au sens d'idéologisation,
oui.
Ou bien réellement au sens, on va dire, propagandiste, quoi, d'une certaine
façon. Les deux vont ensemble, en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les passages du livre où Javier Cercas et David Trueba vont parler en particulier avec un vieil homme du village, El Pelaor. Je ne sais pas si dans la traduction française, parce que j'ai lu
le tondeur.
Le tondeur, voilà.
Voilà, oui. Le tondeur. Absolument. C'est au début du livre, c'est le premier témoin important
que
les personnages vont interroger.
Moi, j'ai surtout étudié la période postérieur, en fait, mon terrain, disons, d'études, c'est les années 40. Et c'est juste après la guerre civile. Et j'ai fait beaucoup d'histoire orale. Et j'ai retrouvé
les difficultés de
décrites
parler
avec énormément de justesse les sensations, les impressions, les ambiguïtés de ce rapport au témoin qui est à la fois fascinant, gênant. On se demande de quel droit on va fouiller aussi dans la vie des gens. C'est extrêmement compliqué et c'est probablement une des parties du livre avec lesquelles je me suis sentie le plus identifiée. Oh. Et c'est vrai que l'histoire, du moins telle que je l'entends, devrait essayer de trouver un équilibre justement entre ces explications plus générales et plus essayer aussi de raconter qu'est-ce que c'était l'expérience des gens. Et en ce moment, c'est vrai que les historiens ont de plus en plus de sensibilité pour la littérature vis-à-vis de la littérature. Et en ça, les historiens français, je pense que ils sont bien plus en avance par rapport aux historiens espagnols qui ont une espèce de refus d'utiliser la littérature comme source pour l'histoire, alors qu'il n'y a pas de raison si on sait utiliser la méthodologie appropriée, parce qu'on ne peut pas prendre la littérature comme si c'était une vérité établie d'une fois pour toutes, mais et ça donne quand même la saveur, l'arôme de l'époque. Ça permet de comprendre les subjectivités des acteurs historiques.
Alors, la littérature et l'histoire sont complémentaires.
Oui, tout à fait.
Alors, vous évoquez David Trueba, Mercedes Justas, à l'instant, qui dit, parce que c'est vraiment un rôle important, David Trueba, parce que c'est celui qui finalement se met un peu à la place du lecteur aussi, oui. dans le livre, qui dit tout haut ce que le lecteur pense tout bas, d'une certaine façon, mais il le dit directement à Javier Cercas. Et il dit, David Trueba, on n'arrête pas de réclamer que l'Espagne doit assumer son passé. Et quand on lit le livre, on se dit, on en est assez loin encore aujourd'hui, Mercedes Justas. Est-ce que l'Espagne a fini d'assumer son passé franquiste et pour quelles raisons n'arrive-t-il pas à le dépasser? Ceci dit, les Français ont aussi plein de choses qu'ils n'ont pas complètement assumées dans leur histoire, naturellement. Mais comment les Espagnols se positionnent aujourd'hui par rapport au passé franquiste?
Oui, c'est vrai que toutes les sociétés ont des squelettes dans les armoires.
Naturellement, en France, on est bien placé pour le savoir aussi.
Et c'est vrai que, par exemple, la récente polémique sur El Valle de los Caídos, et ça montre à quel point, effectivement, l'Espagne n'a pas, ou du moins une partie de la société espagnole n'a pas assumé son passé.
Alors justement, cette polémique, c'est la polémique autour du mausolée de Franco. Alors, puisqu'à peine arrivé au pouvoir, donc au mois de juin dernier, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé qu'il entendait déménager les restes de Franco vers un cimetière privé. Et le débat s'est engagé en Espagne. Justement, notre correspondant à Madrid, François Musso, nous en rappelle les termes.
C'est en soi une expérience. Passé la bourgade de l'Escorial, on se retrouve sous une croix géante de 150 mètres de haut, dans un cirque montagneux, et sur une immense plateforme de granit, de laquelle on accède à une basilique via un long couloir. Une fois au centre de cette basilique, sur un sol marbré et élégant, est encastrée la tombe du général Francisco Franco, mort en 1975. On peut voir des bouquets de fleurs dessus, les visiteurs se succèdent par dizaines tous les jours, des touristes, des curieux, et aussi beaucoup d'Espagnols nostalgiques. La décision est prise. Par décret-loi d'ici décembre, la dépouille du dictateur aura déménagé. Pour une autre raison de force majeure. Outre le mausolée de Franco, c'est aussi une immense fosse commune, la plus grande de toute l'Espagne, où gisent environ 33 000 cadavres. Tous des victimes de la guerre civile qui avait ensanglanté le pays entre 1936 et 1939. Mais Franco, mort dans son lit, ne fut pas une victime. Et donc, c'est une loi approuvée l'an dernier qui le dit, il ne peut rester enterré en ce lieu. D'où la décision du chef du gouvernement Pedro Sánchez, une décision qui divise les forces politiques et qui divise surtout les Espagnols. Ceux qui appartiennent à des familles issues du franquisme ou ceux qui se disent profondément conservateurs, eux, s'opposent au transfert du corps. C'est le cas de Maria, une conseillère commerciale.
Le Val de los Caídos devrait rester tel quel, car c'est une partie intégrale de l'Espagne et de son histoire, et rien de plus. On a plein de rois enterrés dans des monuments nationaux, donc Franco devrait rester là.
Une autre grande moitié de la population pense exactement l'inverse. Pour Pablo, professeur de langue en université, ce lieu lui inspire le pire.
Torture, génocide, franquisme, national-catholicisme, implication de l'Église catholique. Pour moi, l'horreur est absolue. Il faut donc bien sûr exhumer Franco. Cela fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Car en plus, c'est un monument national que tous les Espagnols entretiennent avec leurs impôts.
Mais il y a désormais une autre question tout aussi importante. Que faire du Valle de los Caídos, qui est donc loin de n'être que le mausolée de Franco? Que faire du reste? Une croix, un couloir, une basilique souterraine et gigantesque, une fosse commune où des corps de victimes avaient été jetés pêle-mêle. Là-dessus, personne n'est d'accord. Et même le gouvernement socialiste change d'avis chaque semaine. Un jour, il est dit que ce monument national doit être rendu à l'église. Un autre jour, on penche pour en faire un cimetière civil et donc en finir avec la basilique et tout l'aspect religieux, ce qui provoquerait de grosses résistances parmi l'Espagne conservatrice. À l'image de José, un entrepreneur.
Moi, cela ne me dérange pas que cela reste en l'état. Peu importe si ça reste encore longtemps. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses plus importantes en Espagne que de se préoccuper de cette question.
Mais dans l'autre camp, le camp ennemi, il est hors de question de laisser El Valle de los Caídos en l'état. C'est l'avis de Eduardo, professeur de mathématiques dans le secondaire.
Ce mausolée doit se transformer en un monument en l'honneur des victimes de la guerre civile.
L'affaire en est donc toujours à l'état de débat. Deux certitudes seulement. La première, il sera difficile de transformer le Valle de los Caídos. La deuxième, d'ici la fin de l'année, Franco aura déménagé de ce lieu si symbolique.
Alors, Javier Cercas, que vous en pensez? Que faut-il faire de ce mausolée?
La question, c'est pas la question vraiment, c'est pas pourquoi faire. Qu'est-ce qu'il fait là, Franco là? Ça c'est la question. Après 40 ans de sa mort, ça c'est la question. On ne peut pas avoir un mausolée fasciste avec le dictateur et le victime de le dictateur. Ça c'est complètement fou. La réponse à cette question, c'est l'histoire de l'Espagne, évidemment, comment on a fait la transition de tout ça. Mais permettez-moi de dire une chose que c'est très important. Enfin, Mercedes a parlé de ça. Quand j'étais jeune, je pensais que mon pays était complètement différent des autres. Aujourd'hui, je pense que c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'histoire de l'Espagne, aux années 30, par exemple, on a parlé des années 30, que c'est pour moi le commencement du présent. C'est pas si différent de l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire, la guerre civile, on a dit beaucoup de fois que c'est le prologue de la guerre mondiale. C'est pas faux, c'est vrai. Évidemment, il y a des nuances en Espagne, des différences que les historiens, tout ça, racontent très bien, blablabla. Mais essentiellement, c'est la même chose. Et aussi, pardon, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en Espagne? Ce qui se passe en Europe. Et pardon, dans ce sens, j'ajouterais, évidemment, l'Espagne a d'énormes difficultés avec son pire passé, son pire héritage, comme on disait. Mais tous les pays ont un grand problème. Alors, avec les pires héritages.
Mercedes Justas, de ce point de vue-là, l'Espagne comme les autres, où il y a une spécificité espagnole?
Il y a une spécificité, bien sûr, évidemment.
Mercedes Justas, est-ce que justement cette polémique autour du mausolée n'est pas la preuve, bien que les plaies du passé sont encore extrêmement vives?
Oui, surtout, enfin pour moi, le problème, c'est et ça j'avais envie de le dire même avant l'intervention de François Musso, et c'est que pour moi, la grande spécificité de l'Espagne, le grand problème de l'Espagne avec sa mémoire, c'est que la société espagnole dans son ensemble n'a pas admis, aussi fou que ça puisse paraître, que Franco était un dictateur. Enfin, il y a encore beaucoup de personnes dans la société espagnole qui parlent du régime antérieur, du régime qu'il y avait avant, du généralissime, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment la conscience d'avoir vécu une dictature, c'est-à-dire un régime d'exception qui n'était pas un régime démocratique et qui n'était dans aucun cas assimilable à d'autres démocraties européennes. Donc, cette conscience de la nature profondément dictatoriale et antidémocratique du franquisme n'est pas encore admise dans la généralité de la société.
Nous n'avons pas une histoire commune. Oui. On raconte commune du passé, c'est vrai. Mais il faut ne pas oublier une chose. Les historiens, nous savons l'histoire, vous l'avez dit, la guerre c'était 3 ans. C'est pas vrai. C'était 43 ans la guerre, parce que le franquisme a été la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Alors la guerre, en fait, est finie, je dirais que la guerre est finie, 1900, quand la Constitution, non 1900, comment on dit ça, 78
78,
non ça c'est la fin de la guerre.
3 ans après la mort de Franco.
3 ans après la mort de Franco, je dirais 1900, encore plus tard, mais ça c'est comme ça. C'est-à-dire la guerre n'a pas fini 1939. A fini à ce moment-là.
Merci beaucoup à tous les deux, Javier Cercas. Le Monarque des Ombres est paru, je le rappelle, aux éditions Actes Sud. Merci également à vous, Mercedes Justas. Dans une poignée de secondes, le journal, on se retrouve demain pour une des bandes dessinées de la rentrée, L'Âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreille, paru chez Air Libre. Et vous m'en direz des nouvelles.